Radio Grand Ciel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland, assisté de Patrick Grigy aujourd'hui. Au micro, Christiane Blain. Une belle exposition a lieu à La Ferté-Bernard en ce moment et je suis heureuse de recevoir Maximilien Guillol. Il est conseiller artistique pour cette exposition. Maximilien Guillol, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Eh bien justement, en quoi consiste cette exposition ? Évoquez pour nous cette exposition qui va avoir lieu, dites-nous tout.
Cette exposition a commencé, elle a eu lieu, elle a commencé le 5 octobre de ce mois. Oui. Et c'est une exposition des œuvres sur papier d'André Derain. Oui. Alors dessin, aquarelle, gouache, enfin tout support, mais toujours papier.
Quelle chance pour La Ferté-Bernard d'avoir André Derain, ce célèbre peintre. Vraiment, on a beaucoup de chance.
Alors, c'est une chance, mais il la mérite. Comme on dit, une chance se mérite toujours. J'avais été en contact avec eux l'année dernière pour une exposition sur le dessin, et tout ça s'était très, très bien passé. Et cette année, ils avaient envie d'avoir une exposition de prestige, quelque chose d'un petit peu important. Et je leur ai proposé André Derain, parce que j'avais une relation privilégiée, non seulement avec l'artiste dont j'aime beaucoup l'œuvre, que je n'ai pas connu, mais dont j'aime beaucoup l'œuvre, mais avec sa famille. D'abord avec sa nièce, Geneviève, qui est morte récemment, et puis maintenant avec ses petits-neveux.
Ah oui.
Et petite nièce, donc avec qui nous travaillons souvent ensemble.
Enfin, c'est eux qui ont toutes les œuvres
alors,
de Derain.
Ils n'ont pas toutes les œuvres, mais si vous voulez, parce que beaucoup de choses sont dans les musées, mais ils ont encore un fonds de dessin très important, qu'ils ne veulent pas vendre d'ailleurs, mais qu'ils gardent et qu'ils peuvent le présenter dans des expositions. Et ils m'ont fait le plaisir, l'honneur et la joie de me laisser choisir un certain nombre d'œuvres, sur papier donc, dans leur collection, dans leur fond, dans leurs archives, on va dire, pour parler de...
Et donc, si vous voulez... Quelle chance pour vous de pouvoir choisir des œuvres de Derain.
Oui, c'est vraiment une chance. Et je vous dis, mais ça, c'est aussi une relation de confiance et d'amitié qui dure depuis déjà très, très, très longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons voulu cette exposition en hommage à Geneviève Taillade, qui était la nièce et leur mère, donc la mère des prêteurs actuels, parce que c'était un personnage absolument extraordinaire qui a été non seulement sa nièce adorée, je voulais dire, mais aussi son modèle. Parmi les tableaux les plus célèbres de Derain dans cette période des années 20 jusqu'aux années 40, sont des portraits de Geneviève. Et notamment Geneviève à la pomme, Geneviève à la mentie,
etc. Et nous aurons des portraits de Geneviève.
Nous aurons un portrait photographique dans l'exposition de Geneviève par Derain, parce que Derain était photographe aussi. Nous n'aurons pas de tableau et pas de dessin, parce que nous n'avons pas de dessin possible, disponible actuellement de Geneviève. Voilà. Mais
il y aura une photo.
Et il y aura en vitrine, à l'exposition, un portrait de Geneviève qui s'appelle Geneviève à la mentie, qui malheureusement a été détruit dans un incendie, mais dont il reste une très très bonne reproduction, et donc il sera mis en vitrine pour présenter cette exposition. Nous avons tenu à faire cette exposition en hommage à Geneviève, parce que pendant des années, elle a soutenu un petit peu dans l'adversité, je veux dire dans des conditions assez difficiles, l'œuvre de son oncle et la mémoire de son oncle. Et en plus, c'était quelqu'un de très joyeux, de très vivant, et que nous aimions beaucoup, nous l'appelions la reine-mère. Donc c'est en hommage à la reine-mère que nous avons voulu faire cette exposition. Le choix des dessins est très large, puisque nous allons de 1904, c'est-à-dire la période de Collioure.
Oui, alors peut-être nous rappeler quand même, pour nos auditeurs qui auraient quelques lacunes, comment était la vie de Derain.
Alors la vie de Derain est une vie très compliquée, très complexe. Il est né en 1880. C'est un homme du 19e siècle qui s'est formé, qui est né à Chatou dont les parents étaient commerçants et qui s'est formé peu à peu à la peinture. Il n'a pas eu vraiment de formation dans un atelier. Il a fait partie d'un atelier, mais un très court
période. Oui, il n'a pas fait les Beaux-Arts.
Il a travaillé dans un atelier, mais surtout il a travaillé au Louvre. Et c'est là où il avait rencontré d'ailleurs Matisse en copiant les maîtres. Oui. Et Derain va très vite abandonner toute autre idée que celle de la peinture, sentant que c'était vraiment son domaine, que c'était son monde, que c'était sa vie. Et il a décidé donc de partir sur ce chemin-là, qui était assez difficile à l'époque. Disons qu'il tâtonne jusqu'en 1903-4. Oui. Il copie des tableaux de...
Donc il a 23 ans.
Voilà, il copie des tableaux au Louvre, on a quelques copies qui ont été conservées, etc. Et puis, il sent qu'il faut aller vers une modernité. Il a découvert les peintres, il a découvert aussi l'art africain et l'art océanien très très tôt. C'est certainement le premier avec Vlaminck à s'être intéressé aux arts africain.
Oui, il fréquente aussi Guillaume Apollinaire, alors, ce qui est quand même...
Voilà, mais un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il a commencé, si vous voulez, les premières pièces sont achetées à Chatou, dans une brocante, et c'est deux masques qu'ils achètent, lui et Vlaminck, et ça seront les premiers achats faits pour l'art africain parmi tous les artistes de cette époque-là. Après, les choses vont se développer, etc. Oui. Mais c'est vraiment un des précurseurs dans la découverte des arts, de ce qu'on appelait les arts primitifs à l'époque, et qu'on appelle aujourd'hui art premier. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est assez importante. Et il va partir, la grande découverte, ça va être le midi avec Collioure, et où il va partir rejoindre Matisse, Henri Matisse. Et là, il va lui découvrir la force de la lumière, la force de la couleur. Il va pousser Matisse à aller vers cette force et cette lumière, à franchir le pas. Il y a vraiment quelque chose, parce que Matisse est un personnage plus âgé, un peintre plus âgé, formé dans l'atelier de Gustave Moreau, donc une formation plus traditionnelle.
Donc ils vont travailler ensemble.
Et ils vont travailler ensemble, là, sur le motif, à travers la fenêtre, sur Collioure. Et c'est l'éclatement de la couleur, c'est le début du fauvisme.
Oui, parce qu'on a dans les yeux tous les tableaux de Matisse à ce moment-là.
Et c'est vraiment la date de naissance de la peinture fauve ou du fauvisme, ce qui sera appelé la fauvisme un peu plus tard. Et dont Dorin va être un maître incontesté. Certainement, avec Matisse, les deux peintres importants de ce mouvement, de cette période de la peinture. Ouais. Et puis, peu après, Dorin va aller vers un cubisme jamais aussi violent ou extrême que celui de Picasso ou de Braque.
Il est plus sage.
Il est à la fois plus sage et en même temps très révolutionnaire dans ses formes, parce que dans un livre dont je parlerai peut-être un peu tout à l'heure, parce que c'est une des choses qui a fait bouger les choses autour de Dorin. Oui. Picasso, on cite une lettre de Picasso disant « Je suis allé chez Dorin, il travaille sur les... Il travaille sur des naïades ou sur des... Et il dit, je suis retourné à l'atelier et j'ai repris mon travail sur les...
Oui.
Donc il y a quand même une fraternité. Mais il n'ira jamais jusqu'à cette forme d'abstraction que représente la fin du cubisme. Il va aller vers une forme plus sage. Et très vite, il va revenir vers les années 1910 déjà, vers ce qu'on a appelé l'époque gothique de Dorin, c'est-à-dire un retour vers des figures très allongées, très émaciées, etc. Et puis, le grand choc, ça va être la guerre de 14. Dorin va faire la guerre de 14, et c'est une blessure, une rupture absolument dramatique dans sa vie. Il le vivra très durement, il restera 4 ans, il sera au chemin des dames, etc. C'est un peintre combattant. Et il reviendra de la guerre de 14, blessé, meurtri, et aussi se posant une question qui, à mon avis, est fondamentale à ce moment-là, comment peindre après l'horreur ? Comment arriver à réconcilier le monde avec la peinture alors qu'on a vécu l'horreur la plus grande ? Et il pense, ça c'est son point de vue, que l'avant-garde ne suffira plus. Il l'a vécu à travers le fauvisme et le cubisme, mais elle ne suffit plus. Il faut réintégrer la grande leçon de la peinture qu'il a toujours eu en arrière-pensée.
Donc
dans
les
sa tête.
Italiens.
Les Italiens notamment, la peinture italienne et aussi une certaine peinture française de la Renaissance. Et il va essayer de faire revenir la peinture dans comme point central de sa vie, en liant l'aventure des avant-gardes et la tradition de la peinture. Et ça sera la grande idée de Reims, de faire cette réconciliation entre les avant-gardes et la tradition.
Donc il revient en France.
Alors il revient en France, oui, il reste en France, il ne quittera jamais la France, hein, sauf un petit intermède ou des voyages en Italie, des choses comme ça, mais il sera toujours peintre en France et il ne peindra jamais à l'étranger vraiment très longtemps. Il est très attaché à son sol natal et à sa terre natale et c'est un personnage. Donc voilà, un petit peu pour simplifier, et donc il va être un personnage très important, un peintre fondamental. Entre les deux guerres, il y a deux peintres français de renommée internationale, qui sont aussi appréciés par le marché de l'art et les collectionneurs, etc., c'est Picasso et Dorin. Ouais. Il est légal de Picasso dans cette période-là en tant qu'artiste.
Ouais.
Et c'est une chose qui est très importante à comprendre aujourd'hui, parce que ça explique aujourd'hui sa redécouverte aussi comme peintre fondamental de cette période-là.
Il y a eu quand même beaucoup d'expositions dans le monde,
Il y a eu beaucoup d'expositions très tôt, notamment aux États-Unis et en Russie, etc. Puisque certains tableaux faisaient partie des collections des collectionneurs russes achetés au moment du fauvisme, etc. Donc il y a eu toujours, si vous voulez, son œuvre a été montrée, admirée, à travers le monde entier. La Seconde Guerre mondiale va être une chose plus dure pour lui parce que sa maison est occupée et pillée par les Allemands. Il est obligé de partir d'abord en Normandie, puis après il rentre sur Paris après la fin de l'Exode et retrouve sa maison dans un piteux état et des œuvres détruites, etc. Et il va vivre cette période un peu, d'autant plus difficilement qu'en 1941, il va faire le voyage en Allemagne.
Ça devait être horrible.
Qui a été terrible pour lui, parce qu'il va le faire, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, parce que Dorin n'était ni antisémite, violemment même philosémite, j'allais dire, d'une certaine façon, et n'était absolument pas d'extrême droite. Il est allé en Allemagne parce qu'il est parti avec une liste de peintres allemands prisonniers, essayant de les faire libérer des prisons. Et le problème, c'est que, si vous voulez, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, ça a été... Mais c'était un homme très naïf, d'une certaine façon, par rapport aux questions politiques. Et il est rentré en France, il ne s'est jamais autrement manifesté. À la guerre, la libération, on a essayé de le convaincre d'avoir collaboré, mais le problème, il n'avait jamais collaboré de sa vie. Il n'avait jamais vu un officier allemand dans son atelier, contrairement à d'autres artistes français. Mais il n'a jamais voulu se justifier. Il trouvait que c'était une insulte de se justifier alors qu'il n'avait rien fait. Il a été blanchi d'ailleurs par le comité d'épuration, mais c'était une blessure pour lui, vraiment très profonde. Et il s'était encore plus isolé, si vous voulez, qu'auparavant. Et c'est un homme qui, depuis les années 30, commençait à s'isoler de toute façon du milieu parisien. Et là, il vraiment s'isole complètement. Mais il va avoir quand même quelques moments de grand bonheur, qui seront notamment les mises en scène pour l'opéra, pour le Festival d'Aix en Provence, grâce à Edmond Charleroux et à la comtesse Pastré. Voilà.
Et malheureusement, il va avoir un problème oculaire.
Alors, il a un problème oculaire assez grave, une genre de démorragie. C'est-à-dire que c'était un bon vivant, c'était un sanguin. Il aimait bien manger, bien boire, bien fumer. Enfin, il aimait énormément. C'était un géant aussi, homme. Et un homme très grand. Et un grand homme, un homme très grand. Et, On peut dire les deux. Et il a eu ce problème oculaire assez grave. Et puis, un an après, il s'est fait renverser par une voiture et il est mort des suites de cet accident. Voilà.
Alors, parlez-nous de l'exposition qui va avoir lieu à La Ferté-Bernard, parce que ça, c'est très important.
Alors, l'exposition qui a lieu actuellement à La Ferté-Bernard, qui a commencé le 5 octobre, et tourne autour de l'œuvre, donc, comme je vous l'avais dit dès le début, sur papier, avec des dessins qui vont de la période de Collioure, c'est-à-dire 1904, des barques de Collioure, jusqu'en 1950, on va dire à peu près. Et surtout, elle montre la diversité, à la fois des influences de Dorin et la diversité de sa création dans des domaines très différents.
Eh bien, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que nous écoutions Bach parce que c'était la musique qu'aimait Dorin,
Il était un grand amateur de Bach et en plus un bon pianiste et un bon organiste. Il avait un orgue de salon dans sa maison où il jouait très souvent du Bach, notamment.
Eh bien, écoutons. Thank you. Je suis toujours avec Maximilien Guillol, qui est conseiller artistique pour l'exposition sur Derain. Donc, nous avons un peu expliqué les différentes œuvres de Derain, mais j'aimerais que vous nous en disiez plus après avoir écouté Bach, justement.
Après avoir écouté Bach, d'abord, rappeler que c'était un musicien favori de Derain, un des musiciens favoris de Derain, mais qu'il n'aimait pas seulement la musique ancienne, mais était aussi très lié avec tous les peintres de l'école, comme Satie, Auric, etc. Enfin, tous ces peintres du groupe des cinq. Et donc, c'était très important pour lui. Et ses œuvres, souvent, font référence à des notations musicales aussi. Il y a une forme de légèreté musicale qui rappelle assez bien la musique, les œuvres de musique. Et il a illustré lui-même un certain nombre de ballets, etc. Et d'opéra, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour le Festival d'Aix, etc. Donc, il avait une pratique et un amour de la musique très, très, très grand. Pour en revenir à l'exposition, je vous expliquais tout à l'heure que c'est une exposition qui était très variée par les sources d'inspiration et aussi par les types de dessins qui sont représentés. C'est-à-dire que nous avons aussi bien du paysage, du portrait, des céramiques, puisque Derain a beaucoup travaillé sur la céramique, des projets de céramique, à l'aquarelle souvent, des animaux, parce qu'il avait une grande passion pour les animaux. Lui-même avait, dans ses différentes maisons, dans ses différentes propriétés, beaucoup d'animaux, des ânes, des chiens, etc. Ouais. C'était un homme qui aimait beaucoup les animaux. Et donc, toute une partie comme ça, comme tout un bestiaire, si vous voulez, qui existe et qui sera présenté. Et aussi des pièces, par exemple, qui montrent son goût pour le théâtre et pour la mise en scène de théâtre et les décors, avec quelques pièces représentant des personnages. Une pièce pour une œuvre qui n'a jamais été mise à jouer, mais sur laquelle il a longtemps travaillé. Et puis, bien entendu, le nu.
Il a fait beaucoup de nus aussi.
Beaucoup de nus. Et certains sont assez somptueux, en utilisant aussi bien la sanguine, que des estompes, etc., des techniques très, très, très sensuelles, si vous voulez, pour donner, parce qu'il était quand même aussi très porté sur ce genre de choses.
Il négligeait rien.
Et c'est vrai que c'est une exposition, il y a des portraits, des nus qui sont luxuriants, pour ne pas dire autre chose, mais qui sont assez extraordinaires, et l'exposition fait une belle part à ce genre de choses. Mais donc, si vous voulez, bien entendu aussi des natures mortes, parce que Derain faisait aussi des natures mortes, etc. Donc ça montre d'abord toutes les facettes de son... Et ça montre aussi ses influences, c'est-à-dire qu'on sent aussi l'influence de l'Antiquité, de l'art étrusque, de la Renaissance, tout ça distillé très intelligemment, et l'art populaire, parce que Derain était un passionné d'art populaire et un grand collectionneur d'art populaire français, d'imagerie populaire notamment, etc. Donc tout ça, si vous voulez, se retrouve aussi, toute cette diversité se retrouve dans le choix des dessins que nous avons faits.
Et vous aurez combien d'œuvres ?
Une soixantaine d'œuvres à peu près. Et ce qui est très très bien, c'est que le centre publie un catalogue où seront reproduits quand même une trentaine d'œuvres en couleur. Vous voyez, ça serait bien. Avec une préface, une petite biographie, etc., un petit texte que j'ai écrit pour l'occasion et un petit texte écrit par Geneviève Javotte-Taillat, c'est-à-dire la petite nièce.
Donc vraiment une histoire familiale, on peut
oui,
dire.
Oui, tout à fait. Tout
et
à
amicale.
Fait. Et amicale, oui.
Alors justement, il nous faudrait dire où se trouve exactement, où se trouve cette exposition à la Ferté-Bernard. Alors,
elle se trouve à la Laverie, qui est un centre culturel, qui se trouve dans le centre-ville de la Ferté-Bernard. Exactement, c'est 3 rues Moulin-Attent, je ne sais pas ce que veut dire Moulin-Attent, je dois vous aviser, 72 400 La Ferté-Bernard. L'exposition a commencé le 5 octobre et se terminera au mois de décembre, début décembre. Pendant cette exposition, en dehors du vernissage, on a organisé 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 7, une table ronde à laquelle participait notamment Michel Charza, qui a écrit il y a 2 ans un livre fondamental sur Derain, une très grosse somme, publié aux éditions Azan, qui s'appelle Le géant foudroyé, et qui vraiment apporte un nouveau regard sur Derain et a permis à beaucoup d'historiens d'art, à beaucoup de spécialistes et à beaucoup d'amateurs de redécouvrir le talent protéiforme d'André Derain. Donc ce livre était très important et dont nous avons demandé à Michel Charza, qui nous avait permis d'utiliser déjà un extrait de son texte pour le catalogue, de venir participer à cette table ronde. Un troisième événement aura lieu pendant l'exposition, qui est une lecture des lettres de guerre de Derain et d'Alice Derain, la guerre de 14 dont je parlais tout à l'heure, qui a été très douloureuse pour lui. Et ce sera une lecture qui aura lieu le 4 novembre.
Alors 4 novembre, à quelle heure ?
À partir de 14h, je pense.
À partir de 14h.
À partir de 14h, voilà.
Donc le 4 novembre, on aura à la fois l'exposition et puis aussi cette lecture. Voilà. Et cette lecture est faite par qui ?
Alors, sera faite par Geneviève Javotte-Taillat, donc la petite nièce, oui. Avec son compagnon Olivier Carré, qui liront ses textes. Ses lettres sont très émouvantes et très belles. C'est vraiment... En plus, Dorin écrivait très très bien, donc c'est un bon écrivain en plus. Donc ça ne gâche rien, oui.
Alors, je sais que parallèlement à cela, il y a une exposition à Paris.
Voilà. Parce que c'était en fait, si vous voulez, ce qui a été le déclencheur aussi de cette exposition à l'affaire des Bernards, ce sont les deux grandes expositions parisiennes consacrées à Derain cette année. Celle qui a eu lieu au printemps et qui a duré toute une partie de l'été, qui s'appelait Derain, Balthus Giacometti, histoire d'une amitié, qui montrait les liens aussi bien personnels mais aussi artistiques entre ces trois personnages majeurs de l'art du XXe siècle. Giacometti considérait Dorin comme le peintre le peintre majeur de son époque.
Oui, oui.
Vous voyez, bon, Giacometti n'était quand même pas un petit sculpteur. Voilà. Et la deuxième exposition, qui a commencé à peu près en même temps que l'exposition de La Ferté Bernard, qui se trouve au centre Georges Pompidou, et qui présente Dorin 1904-1914, c'est-à-dire l'époque fauve, le cubisme, et la sortie du cubisme, le début de cette période qu'on a appelée gothique. Voilà.
Et ça, ça a lieu jusqu'à...
Et ça, ça a lieu, je pense, jusqu'au mois de janvier.
Jusqu'au mois de janvier. Alors, j'aimerais bien que vous évoquiez les œuvres qu'on peut trouver, justement, au musée Pompidou. C'est bien
alors,
ça.
Alors, les œuvres au musée Pompidou regroupent les œuvres de la période fauve, essentiellement, c'est-à-dire aussi bien les Collioure, puis après les tableaux de Londres aussi, puisqu'il y a toute une série de tableaux de Londres.
Oui, parce que c'est quand même à Londres qu'il a découvert l'art.
C'est là où il a vu la première exposition d'art océanien. C'est à Londres où il a peint une série de tableaux absolument merveilleux sur les bords de la Tamise, sur le House of Parliament, etc. Enfin, très très belle série. Et puis, les tableaux cubistes, puisqu'il y a ces très grands tableaux cubistes, ces grandes naïades, ces grandes natures mortes. Mais je vous dis, d'un cubisme très, très, très... Plutôt que de parler de cubisme, je parlerai d'une peinture qui est très inspirée par Cézanne. Il pousse Cézanne un peu plus loin, vous voyez.
Ah, oui.
Et il n'ira pas jusqu'à la révolution cubiste de Braque ou de Picasso. Mais il pousse Cézanne très très loin quand même, et donc on peut parler d'une période cubiste quand même.
Et les couleurs ?
Alors les couleurs sont superbes, c'est des couleurs qui sont déjà un peu plus sourdes, qui ne sont plus les couleurs du fauvisme, hein. Il y a un retour à des couleurs plus sourdes, plus denses, qui sont un petit peu en rupture avec ce qui a été fait, ce qu'il a fait précédemment dans la période fauve, où il y avait l'éclatement de la couleur. Là. Mais je pense qu'il a été grisé de couleurs et de lumière, et qu'à un moment, il a fallu qu'il réintègre la lumière, vous voyez ce que je veux dire, et ne plus la voir de l'extérieur. Je pense qu'il y a une chose un peu comme ça. Et puis après les œuvres qui marquent ce changement, disons, vers une peinture plus sombre, plus émaciée, des portraits très émaciés, etc. Donc c'est-à-dire que ces deux expositions parisiennes ont couvert l'œuvre complète de Dorin.
Oui, c'est ça. Elle se complète.
Elle se complétait complètement, tout à fait. Et si vous voulez, c'était très important. Donc, je trouvais que c'était amusant de montrer une autre facette de Dorin, qui est celle du dessin, parce qu'il y a des dessins dans ces expositions, mais ce n'est pas le but même de l'exposition. Alors qu'ici, nous avons voulu les centrer sur le dessin, parce que pour moi, le dessin est au début et à la fin de tout. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le premier jet de l'inspiration, de la pensée. Et c'est en même temps l'aboutissement complet de l'œuvre. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le dessin arrive à être en même temps simplement première pensée et dessin abouti. Et en lui-même, une œuvre complète. Et je trouve ça assez extraordinaire dans le dessin, avec une économie de moyens, puisque l'aquarelle ou le crayon sont des instruments simples.
Bien sûr.
Hein, où les effets sont limités. Donc tout est tendu, serré, dense. Voilà.
Alors... question peut-être indiscrète, quelle est l'œuvre que vous aimeriez avoir avec vous ?
Dans cette exposition ?
Oui.
Dans cette exposition, il y a certainement une chose que j'aime beaucoup, oui, qui est un petit paysage cubiste.
Alors décrivez-nous ce
qui est
paysage.
Très simple, il n'y a rien.
Faites-nous rêver.
Il y a quelques traits noirs, un clocher, quelques plans coupés au premier plan, et puis le reste, le vide. Et c'est un dessin que je trouve absolument merveilleux. Complet et en même temps en tension permanente. Si vous voulez, rien de trop, rien de moins. Vous voyez, une tension dans ce dessin que je trouve assez extraordinaire. Puis il y a deux ou trois autres choses. Il y a aussi un très très beau cheval à l'aquarelle que je trouve absolument merveilleux, qui a un air complètement... qui est en même temps... Parce que les animaux de Reims sont assez extraordinaires parce qu'ils sont en même temps beaux,
fragiles,
jamais fragiles,
non.
Et toujours plein d'humour et de tendresse pour celui qui les peint. C'est assez étonnant.
Ah,
il y a une douceur,
oui,
une tendresse,
oui.
Mais toujours un humour, l'air de ne pas se laisser prendre. Vous voyez, je veux dire, c'est assez intéressant. Et ce cheval est extraordinaire, il tourne la tête, légèrement sur le côté, l'air de dire... Vous savez, ça me fait penser un peu à une scène d'un film de Fellini où il y a Anna Magnani qui rentre chez elle dans Roma, qui rentre chez elle et elle se retourne, il y a Federico Fellini qui est derrière elle et qui lui dit... quelque chose, et elle lui dit, va te coucher, Federico. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, oui, je sais que tu existes, je sais que tu es comme ça, mais va, passe ton chemin. Et c'est dans ces animaux, il y a ce genre d'humour et de tendresse que
oui.
Je trouvais dans cette scène-là de film.
Oui.
Vous voyez, comme quoi, c'est parfois, les choses se
rejoignent. Et à Pompidou?
À Pompidou, je sais que je ne peux pas les avoir.
Mais rêvons.
Ah, il y a certainement une vue des barques de Collioure que je trouve absolument merveilleuse, où les mâts s'entrecroisent. Les barques sont sur la plage, comme ça. C'est pas un très grand tableau. Mais là aussi, il y a toute la lumière du midi, il y a toute la force de la lumière et il y a toute la puissance du peintre.
Je crois que nous aurons vraiment à cœur d'aller voir ces deux expositions. Alors, je voudrais également que vous nous expliquiez les livres, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits sur Derain, et peut-être que nos amis auditeurs auront envie d'acheter les livres avant d'aller voir cette exposition, ou après peut-être,
De toute façon, la plupart des livres qui sont disponibles aujourd'hui seront en vente à l'exposition. C'est-à-dire qu'il y aura le livre de Michel Charza dont je vous parlais tout à l'heure,
oui.
Sur Derain, le géant
titan,
foudroyé,
oui.
Le titan foudroyé, ou le géant foudroyé.
Édition Hazan.
Qui est vraiment un livre passionnant, avec des nouvelles publications, des nouvelles très intéressantes, nouvelles lettres, des nouvelles publications de correspondances, etc., qui donnent une idée plus large des choses.
Alors, je rappelle quand même à nos auditeurs qu'ils ne doivent absolument pas manquer cette exposition qui aura lieu donc à La Ferté-Bernard. Ça s'appelle La Laverie, un endroit très connu à La Ferté-Bernard. Un grand merci à vous et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver notre émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Merci à vous, Christiane.